Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous salue très chaleureusement et je commence par vous remontrer le plan du cours. J'avais dans l'introduction essayé de montrer de quelle façon, dans les études des dernières décennies, la question d'un changement de l'histoire de l'œil reste actuelle. Et j'avais surtout mentionné les travaux de Baxendall et de Crary. Alors, nous avons un problème fondamental. Si la perception a subi des changements au cours de l'histoire, sommes-nous en mesure de voir les œuvres du passé de façon appropriée, c'est-à-dire d'une façon du moins proche à celle de l'artiste et de ses contemporains? C'est là que j'en arrive à ma première thèse, ou à la première partie de mon cours et donc à ma thèse fondamentale, qu'il y a bien eu au cours des siècles des modifications dans la perception de l'œuvre, mais que ces modifications ont souvent le caractère d'un déplacement d'accent et non pas d'un changement fondamental au point où nous ne serions plus du tout en mesure de voir l'œuvre d'une façon appropriée, c'est-à-dire d'une façon semblable à celle dont elle a été vue par ses contemporains. J'avais donné un exemple en partant des statues de Michel-Ange que j'ai étudiées lors de ma thèse, et c'était l'exemple du non-fini. J'avais montré que le non-fini, effectivement, est un phénomène qui est souligné surtout depuis le XIXe siècle, qui semble, depuis le XIXe siècle, un des aspects les plus positifs dans l'œuvre sculptée de Michel-Ange, que ce n'est évidemment pas le cas à l'époque de Michel-Ange même, que les contemporains de Michel-Ange ont trouvé dommage qu'il n'ait pas eu le temps, qu'il n'ait pas eu l'occasion de finir cette statue, mais que pourtant, la façon de voir le non-fini, par exemple en y soulignant la force expressive de ces statues avec du marbre non travaillé autour ou peu travaillé autour, est une façon de voir qui se trouve dans les vies de Vasari, donc qui est une façon de voir qui a quelque chose de contemporain aussi. J'en viens avec cela à mon deuxième exemple. Pour la question de déplacement d'accent, et c'est l'émergence de la composition. Je renoue là avec des recherches sur l'histoire du concept de la composition picturale que j'avais présenté lors d'un séminaire au Collège de France en 2004. Vous voyez un choix de peinture de la Vierge de Raphaël, peinte entre 1505 et 1510 environ. Vous voyez que le nombre de personnages, la position des figures change de façon sensible d'une peinture à l'autre, qu'à chaque fois pourtant, Raphaël semble suivre le même principe de composition. On l'a appelé un principe de triangle ou bien de pyramide selon que vous considériez simplement le plan du tableau ou que vous essayez de voir la troisième dimension dans l'espace, ce qui peut être particulièrement visible dans la Sainte Famille Canigiani de la Pinothèque de Munich. Ce sont quatre exemples parmi au moins une, probablement plusieurs douzaines que l'on trouve dans l'œuvre de Raphaël. Alors, on doit se demander, est-ce un hasard? Et on pourrait le croire, vu qu'il n'y a aucun dessin préparatoire, aucune trace sous-jacente des tableaux qui ne montre des lignes de construction triangulaire ou encore pyramidale. Et même, je vais plus loin, dans la totalité des écrits sur l'art du temps de Raphaël, c'est-à-dire du XVIe siècle, le concept de la composition n'existe absolument pas. L'idée d'une composition picturale accordée à des formes géométriques ne devient courante qu'au cours du XVIIIe siècle. Alors, comment prouver que quelque chose n'existe pas? C'est beaucoup plus facile de prouver que quelque chose existe, il suffit d'en montrer un exemple, que de montrer que quelque chose n'existe pas. Alors, j'ai fait d'une part une recherche avec tous les concepts, tous les mots qui pourraient être intéressants, et j'ai vu qu'ils n'existent pas. Mais la deuxième preuve qui me semble encore plus intéressante est qu'il y a un seul exemple d'une personne qui parle du fait qu'on doit faire des figures pyramidales et serpentines, c'est exactement le mot qu'il choisit, faire des figures pyramidales et serpentines. Et cet auteur est Lomazzo. Lomazzo, qui dans son traité de peinture de 1584, parle justement du fait de faire des figures pyramidales et serpentines. Alors ce qui est intéressant, c'est que lorsque dans la suite, au cours du XVIIe siècle, on parlera de figures pyramidales et serpentines, ce sera toujours en faisant une citation de Lomazzo. Et c'est ça qui, à mon avis, est la preuve la plus forte pour montrer que ce genre de description géométrique de la composition d'un tableau, ou même chez Lomazzo, il ne s'agit absolument pas du tableau, mais simplement des figures, ce genre de description de la composition géométrique des tableaux n'est pas courante. Si on le lit chez Lomazzo, on se souvient toujours que ça reste une citation de Lomazzo et on ne l'abstrait pas de ce texte même. Alors la même question se pose évidemment aussi pour les tombeaux de Médicis. Est-ce un hasard que Michel-Ange ait composé ses figures de façon triangulaire, donc le duc Julien au milieu, la nuit et le jour qui forment à leurs trois un triangle assez évident. Michel-Ange semble donc, du moins de notre impression visuelle, avoir composé ses tombeaux, mais personne n'y fait attention au XVIe ni au XVIIe siècle. Alors, ayant fait une étude très approfondie des textes qui décrivent, qui parlent de la chapelle, et aussi des dessins qui copient les statues de Michel-Ange, je peux affirmer qu'effectivement, il n'y a aucun texte qui décrive les tombes en tant qu'ensemble jusqu'en 1665, et qu'il n'y a aucun dessin de l'ensemble. La totalité des descriptions, celle de Vasari en 1550, celle de Bocchi en 1591, et quelques autres qui sont plus courtes, ne décrivent même pas les tombes une à une. Les deux ducs qui se font face sont décrits l'un après l'autre, et ensuite il y a une description en général des quatre allégories des heures du jour. Donc c'est plutôt l'aspect du programme de ces deux tombes l'une face à l'autre qui est décrite, et non pas la question de la composition. La toute première description des tombes en tant qu'ensemble provient d'un Français qui voyage en Italie et qui publie ensuite son voyage, c'est Balthazar de Monconi. Et Balthazar de Monconi écrit « Il n'y a que deux tombeaux, un de chaque côté, qui soit de marbre, avec une statue couchée chacune de leur côté, et sur le haut du tombeau est assis dans une niche le prince qui est enseveli. » C'est une description qui n'a rien de particulier, mais qui est exceptionnelle pour cela, que c'est la toute première qui prend conscience du fait que les tombeaux sont à eux-mêmes quelque chose de valable. La deuxième allusion un peu plus explicite provient de quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est Montesquieu. En 1728, il est à Florence, et dans son voyage qui a été publié bien plus tard, on trouve une première allusion à quelque chose qui là est vraiment la composition de la tombe. Je lis son texte. Dans la sacristie, il y a deux fameux tombeaux faits par Michel-Ange, l'un de Julien de Médicis et deux statues, l'une le jour, l'autre la nuit, l'autre de Laurent de Médicis et aussi deux statues dont l'une représente l'aurore, l'autre le crépuscule. Il n'y a rien de plus admirable que les attitudes de ces quatre statues et que celles de ces deux princes qui sont dans une niche au-dessus de leur tombeau. Et là, il faut faire attention à la dernière phrase, de façon pourtant qu'elles en font partie. Donc, il ne parle pas de composition, terme qui serait encore pas très courant en 1728, qui va le devenir dans les années qui suivent, mais il voit qu'il y a un rapport entre le duc et ses statues. Alors la chose change complètement aux alentours de 1800, et vous avez dans le livre de Quatremer de Quincy sur l'histoire de la vie et des ouvrages de Michel-Ange, là, une référence très précise à ce que nous appelons encore aujourd'hui la composition. Je lis ce dernier texte, vous avez tous les textes que je lis sur la droite. À l'égard de leur composition, il faut reconnaître qu'elle produit, par la liaison de la masse du sarcophage avec les statues assises dans la niche située au-dessus, un effet pyramidal d'autant plus agréable qui paraît être vu naturellement et sans une recherche expressive. Alors ça, c'est l'aspect des textes. On pourrait dire, bon, c'est un problème des textes, c'est un problème de concepts qui n'existent pas, mais ça va bien au-delà, puisque si on fait une recherche, que j'avais voulu aussi totale que possible, des dessins des statues de Michel-Ange, on voit qu'au XVIe et au XVIIe siècle, il y a un assez grand nombre, plusieurs douzaines de dessins qui sont conservés, et ce sont tous, mais sans aucune exception, des dessins de chacune des figures. Alors vous voyez, ça va de Battista Franco en 1536 à Naldini dans les années 1560 jusqu'à Rubens en 1603 probablement. Il y a des dessins, c'est la plupart des dessins qui dessinent la statue dans son entier. Il y a quelques dessins qui dessinent aussi des détails de mains, de pieds, de bras, de tête. Mais il n'y a pas de dessin qui montre deux ou même trois figures dans leur ensemble. Ce n'est le cas qu'en 1724, le tout premier dessin qui ne montre pas encore l'ensemble du tombeau, mais deux sculptures, c'est Giovanni Casini, et ensuite de même Honoré Fragonard lors de son voyage en Italie en 1761. Et ce n'est qu'en 1787 que John Flaxman va pour la première fois faire un dessin de l'ensemble de la tombe, et ce qui montre aussi que c'est vraiment le rapport entre l'architecture, les sculptures et les sculptures par rapport les unes aux autres qui l'intéresse, c'est le fait que, du même coup, il fait un deuxième dessin très latéral qui montre de nouveau l'ensemble. Alors, ce n'est toujours pas le point de vue de Quatremer de Quincy qui parle du triangle. Ce point de vue se retrouve beaucoup plus tard. Alors, je vous en montre un exemple explicite. C'est Alberto Giacometti, qui, vers 1935-37, est très vraisemblablement d'après une photo, alors que les autres dessins étaient faits d'après les originaux, d'après une photo, dessine la tombe dans son ensemble, et là, vraiment, fait les traits de la composition du triangle. Et je vous en montre un deuxième exemple qui est très intéressant. C'est un dessin fait par Rodin à Florence pendant l'hiver 1875-1876. On ne sait pas exactement les dates parce qu'on n'a pas pour l'instant reconstruit son voyage de façon précise. On n'a pas de source pour cela. Mais on sait, parce qu'on a plusieurs lettres qui ne sont pas datées exactement, que la rencontre avec les statues de Michel-Ange à la chapelle de Médicis joue pour Rodin, d'après ses propres explications, un rôle essentiel dans l'ensemble de son évolution artistique. Effectivement, ce n'est qu'après son retour d'Italie, donc au printemps de 1876, que Rodin trouve son mode de production caractéristique, et on peut penser que cette perception de Michel-Ange et cette pensée sur Michel-Ange a eu un certain rôle dans cette formation du, pas très jeune, mais assez jeune Rodin, qui avait 35 ans à ce moment. Ce n'est pas ce qu'on aurait pu penser peut-être au début sur le nom fini que se concentre Rodin. Rodin, que nous connaissons évidemment comme quelqu'un qui aime faire des choses que l'on aurait pu définir en tant que nom fini. Ce n'est pas ça qui l'intéresse tellement, ça aurait été même presque banal en 1875. J'avais mentionné le texte de Jean Rousseau de 1869, qui déjà en 1869, dans la Gazette des Beaux-Arts, dit que le nom fini est un acquis généralement reconnu comme acquis essentiel de Michel-Ange. Et le dessin de Carpeau de 1862, qui fait ressortir ces points de vue expressifs du marbre non travaillé. Ce qui intéresse Rodin, c'est surtout la composition de Michel-Ange. Alors, on le voit dans ce très petit dessin, tenez compte des mesures, il ne fait que 13 cm de haut, ceux des saints qui ne s'intéressent absolument pas, comme nous l'avons vu dans les dessins du XVIe et du XVIIe, à la posture des figures, à leur anatomie, mais qui s'intéressent vraiment à la composition et à la façon dont la composition des membres de ces statues sont en rapport les unes avec les autres. Vous voyez surtout la façon dont il réunit le duc, c'est le duc Laurent dans ce cas-là, et l'aurore, ces deux figures, et il souligne la rythmicité des membres qu'on voit plus ou moins dans cette photo. Alors, les photos que je vous montre sont toutes des photos que j'ai faites moi-même à la chapelle en essayant de reconstruire le point de vue des photographes. Je le dis pour que vous puissiez juger de l'appropriation de la photo. Cependant, dans ce cas-là, comme Rodin va le dire dans une lettre, ce ne sont pas des dessins qu'il a faits à la chapelle en y étant, mais très probablement le soir à l'hôtel en se souvenant de ce qu'il a vu. Il écrit en effet « Tout ce que j'ai vu de photographie, de plâtre, ne donne aucune idée de la sacristie de Saint-Laurent. Il faut voir ces tombeaux de profil, de trois quarts. J'ai passé 5 jours à Florence, ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai vu la sacristie. Eh bien, pendant 5 jours, j'étais froid. J'ai fait des croquis le soir chez moi, non pas d'après ses œuvres, mais d'après tous les échafaudages, les systèmes que je fabrique dans mon imagination pour le comprendre. Eh bien, je réussis, selon moi, à leur donner l'allure, ce quelque chose sans nom que lui seul s'est donné. » Donc, ce qu'on peut voir du dessin, le fait qu'il s'intéresse surtout aux lignes, au rythme scandé des membres. Et dans ce cas-là, ce n'est pas toujours le cas, exactement ce que lui-même décrit dans cette lettre. Alors, il se pose là la question qui, pour moi, est essentielle. Est-ce que Michel-Ange et ses contemporains voyaient les échafaudages, les systèmes que Rodin dit fabriquer dans son imagination, ou est-ce qu'il y a une mécompréhension productive entre Michel-Ange et Rodin. Nous avons heureusement des sources qui permettent de donner une réponse à cette question, du moins pour l'une des statues de la chapelle, et c'est la Madone Médicis qui se trouve sur le troisième côté de cette chapelle, qui est partie du troisième tombeau pour Laurent le Magnifique et son frère Julien, tombeau qui a été terminé par Vasari en 1560, qui n'a pas l'architecture prévue par Michel-Ange. Plusieurs descriptions modernes de cette statue soulignent d'une part ses lignes diagonales et d'autre part la tendance ascendante de sa composition. Alors, je vous lis d'abord, en français, un texte allemand d'une historienne de l'art, Annie Pop, écrit en 1922, qui souligne ces deux points de vue que l'on retrouve dans d'autres textes aussi, mais qui le souligne d'une façon très concise et, du moins dans le texte allemand, ma traduction n'est pas aussi bonne, d'une façon très poétique aussi. L'essentiel de ce qui est le plus révolutionnaire, ce sont les jambes croisées de la Madone. L'équilibre de la masse de la statue est instable, elle balance sur un seul point et aspire vers le haut. Le croisement des jambes oblige le haut du corps à prendre la direction opposée. Il en émerge un nombre de contre-diagonales qui se tiennent mutuellement en équilibre. La diagonale de la jambe croisée qui sort de façon tranchante de la profondeur, la diagonale opposée de la tête et du torse de l'enfant et, reprenant la première diagonale dans un doux écho, la tête inclinée de la Madone. Ces diagonales en zigzag de la Vierge allaient traverser l'architecture comme un éclair. Et je lis quand même le texte allemand parce qu'il est trop beau, même si peut-être pas tout le monde ne le comprendra. « Das Wesentlichste und Revolutionärste sind die übereinandergeschlagene Beine der Madonna, durch die die Masse der Madonna zur auf einer spitze balancierenden, in labilem Gleichgewicht emporstrebenden Form wird. Durch die Überkreuzung der Beine aber musste der Oberkörper in die Gegenrichtung kommen. Entstanden in der Madonna lauter Gegendiagonalen, die sich selbst das Gleichgewicht halten. Die schneiden scharf als schmale Kante aus der Tiefe herausspringende Diagonale des überkreuzten Beines, die Gegenschräge des Kopfes und Rumpfes des Kindes und wieder die erste Diagonale im milderen Nachklang anschlagend, der geneigte Kopf der Madonna. Wie ein Blitz sollten diese Zickzack-Diagonalen der Madonna durch die Architektur zucken. Vous entendez le Zickzack et le schneiden scharf. C'est de l'onomatopée qu'elle fait. Comparons cette description typique du XXe siècle aux sources du XVIe. Alors tout d'abord, au texte que Vasari écrit en 1550 et qui est la toute première description de cette statue. L'une est la mère de Dieu qui, en position assise, met la jambe droite sur la gauche de sorte que le genou est posé sur le genou. Et l'enfant, assis à califourchon sur la jambe surélevée, se tord avec une attitude merveilleuse vers la mère pour demander du lait. Elle le tient avec une main pendant qu'elle s'appuie avec l'autre et se penche pour lui en donner. Il faut lire cette description dans l'horizon du XVIe siècle, où un texte comme celui de Pope n'existe évidemment pas du tout. C'est à l'intérieur de la vie de Michel-Ange et à l'intérieur des vies de Vasari dans l'ensemble, et même à l'intérieur des textes que nous avons du XVIe siècle, une description exceptionnellement détaillée. Il y a très peu d'autres descriptions aussi détaillées d'une seule figure chez Vasari et dans l'ensemble du XVIe siècle. Et il y a une chose qui est très spécifique dans ce texte, et c'est son ordre. Vasari commence sa description par les jambes, ce qui, à vrai dire, est un sacrilège. Décrire une Madone en commençant par ses jambes n'est pas normal et même, me semble-t-il, d'après les textes que je connais et que je pourrais comparer, tout à fait bizarre. Et non seulement il commence par les jambes, la raison qu'il le fasse est que son texte va de façon très systématique du bas vers le haut, et on pourrait dire donc que cette tendance ascensionnelle qui est décrite dans des textes modernes de cette statue est reprise par Vasari simplement dans l'ordre de son texte. Et pour que vous croyiez bien que ce n'est pas un problème de traduction, je relis le texte maintenant en italien. L'una è la nostra donna, la quale nella sua attitudine, sedendo, manda la gamba ritta addosso alla manca, con posar ginocchio sopra ginocchio, le genou sur le genou. Vous voyez encore, même, ce n'est pas seulement l'ordre, mais c'est aussi dans la rhétorique même du texte, ces moments d'ascension. Et il putto, inforcando le cosce in su quella che è più alta, si storce con attitudine bellissima verso la madre, chiedendo il latte, ed ella, contenerlo con una mano e con l'altra appoggiandosi, si piega per dargliene. Alors, du point de vue des dessins, il y a un dessin du peintre florentin Andrea Boscoli, qui l'a probablement dessiné dans sa jeunesse, donc vers 1580. Dessin qui représente la Madone. Là aussi, j'ai essayé de prendre son point de vue, ce qui est possible jusqu'à un certain point, parce qu'il semble bien avoir un tout petit peu bougé pendant qu'il dessinait. Alors, il représente la mère et l'enfant, ainsi que leurs vêtements de façon fidèle. Et ce qui est intéressant, ce que j'avais montré dans d'autres dessins la dernière fois, c'est qu'il ne s'intéresse pas du tout au nom fini en tant que tel. Il y a des endroits comme cela où, sans problème, il peut finir la statue parce qu'il sait bien comment est-ce que ça marche. Et il y a d'autres endroits qu'il omet tout simplement où la figure n'est pas finie. Par contre, ce que ce dessin souligne de façon assez évidente, ce sont les axes de la composition dont il renforce l'inclinaison diagonale. Alors, tout d'abord, cette diagonale dont parle nombre de textes du XXe siècle, qui est beaucoup plus évidente et beaucoup plus diagonale dans le dessin que dans l'original. Ensuite, le les axes parallèles à cette jambe, donc la jambe droite de l'enfant et son bras gauche, ainsi que la tête de la mère. Et vous comparez toujours par rapport à la photo de la statue, et vous verrez qu'il y a une certaine soulignation de la diagonale, de la parallélité des diagonales dans le dessin. Un deuxième axe qui coupe le premier, et c'est un axe décrit par Pop et par d'autres auteurs du XXe siècle, est celui qui part avec, dans le pied gauche de l'enfant, que vous voyez est beaucoup plus vers le bas que dans la statue, et qui va jusqu'à l'épaule, qui est beaucoup plus haute que dans la statue chez Pocky. Là, c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il a un peu bougé. Donc l'épaule a peut-être été dessinée en étant un tout petit peu plus à gauche, mais quand même en soulignant cet axe diagonal. Et ensuite, il y a une troisième chose, c'est que ce qui parmi vous ont été à Florence se souviennent peut-être, cette chapelle a une illumination naturelle très particulière qui vient de très haut. Il y a des fenêtres qui sont au deuxième étage, juste au-dessous de la coupole, et on a donc une illumination qui, indépendamment de l'heure de la journée, indépendamment si on y est en hiver ou en été, est toujours une illumination très constante, donc de lumière qui vient du haut et qui fait que vous n'avez aucune ombre sur le mur et des ombres assez douces sur la figure, ce qui est un grand problème. C'est quand on fait des publications modernes, on aime donner des illuminations très violentes, mais qui vont vraiment à l'encontre de l'intention de Michel-Ange. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Bocchi lui-même donne une illumination complètement différente, et nous savons de façon définitive que ces ombres n'existaient pas lorsqu'il y était. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ces ombres différentes? Il y a une zone claire au milieu de la statue, une zone claire qui va du bas vers le haut en serpentant un tout petit peu, et il y a deux zones sombres à gauche et à droite qui limitent cette zone claire, et là aussi c'est une façon de souligner l'aspect, disons, ascensionnel, vertical de la statue. Et en plus, vous voyez qu'il déligne de façon très nette la verticale du côté gauche, un tout petit peu plus qu'on ne le verrait peut-être dans la statue, et de façon assez nette une diagonale sur la droite, là aussi, là surtout plus que dans la statue. J'en viens donc à ma conclusion. Raphaël et Michel-Ange semblent bien faire des compositions sans en être conscients. C'est un peu comme M. Scapin, chez Molière, qui dit de la prose sans le savoir. Leurs contemporains ont perçu leurs compositions, bien qu'ils n'avaient pas de vocabulaire pour en parler. Preuve en est le texte de Vasari, preuve en est le dessin de Pocky. Il y a donc eu au cours de quelques siècles un déplacement d'accent de la perception. Les spectateurs sont plus attentifs à la composition, surtout depuis le XVIIIe siècle. Alors, ces observations qui sont faites sur les descriptions des statues de Michel-Ange et les dessins d'après ces statues mêmes correspondent à ce que nous pouvons déduire de l'histoire de la composition dans la théorie de la peinture. C'est vers 1700, avec Roger de Piles et Jonathan Richardson en particulier, et certains autres, que la composition picturale devient objet d'un discours écrit explicite. Le premier traité autonome sur la composition picturale n'arrive que plus tard. C'est le traité dont j'avais justement parlé déjà au Collège de France, de Baldassare Orsini, de 1784. Premier traité qui publie des dessins de composition, des analyses de composition, des schémas de composition dans un livre. Et vous voyez une des planches de ce livre avec plusieurs suggestions comment faire de bonnes compositions, planches que l'on comprend très bien quand on lit le texte qui les explique. La formation d'un discours écrit sur la composition picturale est étroitement liée à la genèse d'une théorie de l'esthétique de la ligne. Alors ça aussi, c'est quelque chose d'assez bizarre, à laquelle on ne penserait pas de façon évidente, c'est qu'il existe depuis l'Antiquité une théorie mathématique de la ligne, par exemple la définition de la ligne par Euclide par rapport à deux points et à un segment de droite. Mais jusqu'au XVIIIe siècle, la ligne n'a pas été objet d'une théorie esthétique ou expressive. Donc il n'y a aucune phrase, aucun texte qui se pose la question si des lignes sont belles, laides, tristes ou gaies, jusqu'en 1750. C'est le peintre anglais William Hogarth qui crée une toute première théorie esthétique de la ligne, et le premier pas où on peut vraiment dater cette théorie. Il y a des théories qu'on peut dater, il y a des théories qu'on peut moins dater. Ça, c'est une des théories qu'on peut dater de façon la plus exacte. Et la première date, c'est 1745, dans un autoportrait qui se trouve aujourd'hui à la Tate Gallery, où, comme le font souvent des peintres dans un autoportrait, il a une palette. Mais sur cette palette, vous n'avez pas de couleur, mais vous avez une ligne. Et cette ligne, on peut le lire assez mal et expliquer « the line of beauty », la ligne de la beauté. Alors, en 1745, personne n'a compris qu'est-ce que ce propos, qu'est-ce que cette ligne. Le portrait était assez connu parce qu'il a été diffusé aussi par une estampe, et c'est peut-être une coquetterie de Hogarth, mais une coquetterie à laquelle on peut croire. Il écrit ensuite qu'il a eu souvent des questions. Quel est le sens de cette palette et de cette ligne? Alors, ce n'est qu'en 1753 que dans un livre, Hogarth va donner cette explication. Ce livre, c'est l'analyse de la beauté destinée à fixer les idées vagues qu'on a du goût, « The Analysis of Beauty with a View to Fix the Fluctuation Ideas of Taste », est un des livres qui ont le plus gros succès dans la théorie esthétique du XVIIIe siècle. Il a eu deux traductions allemandes en 1754, donc une année après sa parution, dont l'une éditée par Lessing. En France, il y a eu plusieurs éditions, mais seulement à partir de 1805, mais le livre a été lu bien avant. Je reviendrai sur la réception de Hogarth par Diderot. Le livre est basé sur deux principes très faciles à expliquer. Alors, le premier principe est un principe d'abstraction. Hogarth explique que l'on peut abstraire tout objet d'art, toute peinture, à quelques lignes. Et il en donne nombreux exemples. Alors, par exemple, il y a une scène d'un bal. Et il fait une abstraction de cette scène dans ce tout petit dessin numéro 71. Alors, ces deux figures sur la gauche sont ces deux danseurs. Le prochain, c'est cette femme, et cela, et ce monsieur, et ainsi de suite. Et il explique ça de façon très large. Donc, le premier principe, c'est simplement de dire on peut faire une abstraction de quoi que ce soit à une ligne. Le deuxième principe, c'est la question de savoir si une ligne est belle ou non. Alors, pour ceux qui du premier principe, il me semble important de souligner qu'il y a effectivement cette phrase que j'avais citée de Lomazzo en 1584, la figura serpentinata e piramidale. Mais Lomazzo ne parle pas d'une ligne serpentine et piramidale, mais d'une figure serpentine et piramidale. Donc, Hogarth, qui se rapporte à Lomazzo, qui dit que Lomazzo avait déjà dit quelque chose de semblable, a quand même un point de départ qui est vraiment innovatif, le fait de faire une abstraction très nette, une abstraction sur les lignes. Pour le deuxième principe, il est peut-être moins originelle. Et c'est là qu'il dit que, une fois qu'on a une ligne, on pourra déterminer si elle est belle ou laide, et cela suivant la question de savoir si cette ligne a une ondulation juste. Donc vous voyez dans le dessin 49 plusieurs lignes. Celle du milieu, la ligne 4, est la line of beauty, c'est la ligne de beauté qui est ondulée de façon parfaite. Le numéro 1 est trop raide et le numéro 7 est trop ondulé, donc les deux sont moches. Et cela peut s'appliquer de façon très facile, par exemple pour les menuisiers. Alors, des pieds de chaise, le bon pied est le 4, le 1 est trop raide, le 7 est trop courbe. Ou encore des corsets de femmes. Le 4 a la bonne forme, le 1 est trop raide, le 7 est trop courbe. Alors, c'est une esthétique abstraite d'une part, c'est une esthétique très normative de l'autre. Il y a une norme très précise, c'est-à-dire celle de la ligne justement ondulée. Ce livre a eu donc une diffusion très rapide et a diffusé très rapidement le principe de l'abstraction à une ligne. C'est quelque chose qui, après 1753, se trouve dans des endroits très différents de la culture littéraire du XVIIIe siècle. Mais ce qui, pour moi, est bien plus important, c'est que ce livre a contribué à diffuser l'idée que la ligne a une valeur esthétique en tant que telle. Ce qui a été diffusé moins, ou ce qui a été perçu beaucoup moins, c'est la norme esthétique de Hogarth, norme esthétique que l'on pourrait dire aujourd'hui très liée au rococo, donc cette idée que la beauté est dans la courbe juste, ça a été moins reçu. Mais l'idée de dire qu'une ligne peut être plus ou moins belle, et surtout qu'une ligne a une valeur esthétique, ça, c'est quelque chose de fondamental qui joue un rôle très important depuis 1753 et qui est vraiment je ne dirais pas une invention complète, mais quelque chose qui n'avait jamais été exprimé avant Hogarth. Alors, par exemple, ce qui est très important dans la suite de Hogarth, c'est qu'on se rend compte que la ligne n'est pas seulement une question de beauté et de laideur, mais une question d'expression, et que l'on peut décrire la ligne aussi avec des qualités expressives. C'est le philosophe Moses Mendelssohn, le philosophe Edmund Burke, l'écrivain Lawrence Stern, le physionomiste Lavater et beaucoup d'autres qui, dans les années qui suivent tout de suite 1753, ont fait des remarques sur les qualités expressives de la ligne qu'ils n'auraient pas faites s'il n'y avait pas eu ce premier pas d'abstraction d'une théorie esthétique de la ligne par Hogarth. Et c'est un discours, celui-là, sur l'expression, la possibilité d'une expression de la ligne qui est continuée jusqu'à la théorie artistique du XXe siècle. Alors, par exemple, pour prendre un exemple parmi beaucoup d'autres, le livre de Kandinsky de 1926, une sorte de grammaire des beaux-arts, le point, la ligne et la surface, remonte dans beaucoup de ces points de vue à ce discours sur l'expression d'une ligne déchaînée par Hogarth. Je ne vais pas aller jusqu'à Kandinsky, mais je voudrais vous emmener un exemple parce qu'il est très peu connu et il me semble très représentatif. Ce n'est pas un livre qui a eu une grande diffusion. C'est le livre de William Robson, The Grammigraphia or The Grammar of Drawing, publié en 1799 et qui est, je pense, le premier livre dont le titre est « La grammaire du dessin », titre qui a été très populaire en France, en particulier par un livre de ce titre de Charles Blanc, publié dans une série d'articles des années 1860 dans la Gazette des Beaux-Arts. Robson décrit de façon très pertinente la qualité expressive des différentes lignes après les avoir distinguées. Donc, il distingue, vous voyez là, la page 122, quatre sortes de lignes différentes, la perpendiculaire, l'horizontale, l'oblique et la courbe. Et ensuite, il décrit la façon dont chacune de ces sortes de lignes ont un potentiel expressif. Et je traduis simplement les parties que j'ai soulignées en rouge. Chaque ligne possède ses effets particuliers. Elle exprime des qualités et propriétés de la nature. La perpendiculaire est l'expression de la vérité, de la détermination, de l'inflexibilité, de la gravité et de l'énergie. Elle représente la fermeté et la force compacte. L'horizontale décrit la tranquillité, le repos, l'expansion et l'égalité. L'oblique est plus légère, moins déterminée, moins dépendante et plus diverse que les deux autres. La ligne courbe est la plus légère, active et expressive. Elle a le plein pouvoir de décrire l'action. Elle représente le vol, la vitesse, ainsi que l'ascension de la flamme. Elle exprime la liberté, l'audace et la délicatesse. Alors que Robson est très peu connu, vous connaissez peut-être un autre traité qui lui aussi a été publié avec assez peu d'exemplaires, mais qui, surtout par la réception de Charles Blanc, que j'avais déjà mentionné, a eu un succès remarquable au XIXe siècle. C'est le traité Essai sur les signes inconditionnels dans l'art du peintre hollandais David-Pierre Giottino Humbert de Superville, publié en 1827. Superville distingue des directions élémentaires de la ligne que vous voyez déjà sur le frontispice. C'est la ligne ascendante, où Humbert de Superville parle de ligne expansive, la ligne horizontale et la ligne descendante, il parle de ligne convergente. Chacune de ces lignes ont, selon lui, des qualités expressives propres. Nous en sommes de nouveau à l'expression de la ligne, concept qui ne figure pas chez Hogarth, mais qui, dès 1754-55, est à l'ordre du jour de la discussion générale. Donc, selon Humbert de Superville, l'horizontale est signe d'équilibre, de calme et d'ordre, ici. La diagonale expansive, c'est-à-dire ascendante, est expressive et active, c'est-à-dire agitée, explosive. La diagonale descendante, c'est-à-dire convergente, exprime la concentration, le recueillement, la solennité. Superville voit dans ces lignes des signes inconditionnels, c'est-à-dire universels, une sorte de formule de base du monde. Il associe à chacune des directions une couleur. La diagonale expansive, le pôle actif est évidemment rouge. L'horizontale est neutre, donc blanc. La diagonale convergente est associée au noir. Et vous voyez cette xylographie colorée à la main qui accompagne l'édition du livre. Est-ce que cette prétention de Superville, qu'il s'agisse de signes universels ou de conventions liées à des discours culturels, qu'il s'agisse de signes universels, est-elle justifiée? Ou est-ce qu'il s'agit là de discours culturels spécifiques? Est-ce que les signes dont il parle sont perçus de la même façon dans l'Égypte de l'Ancien Empire, dans la Chine des Ming, ainsi que dans l'Europe contemporaine? Il n'est pas facile de donner une réponse à cette question, une réponse qui pourrait peut-être se trouver par une étude psychologique comparative, du moins à notre époque, en incluant peut-être des peuples vivant encore à un état plus ou moins primitif, mais nous ne pouvons évidemment pas poser des questions de ce genre à des Égyptiens de l'Ancien Empire. Mon hypothèse est là aussi qu'il y a eu un déplacement d'accent. Déplacement d'accent de la perception qui a des répercussions sur nos habitudes visuelles quotidiennes. Vous connaissez peut-être à gauche les études de Charles Lebrun sur l'expression des passions. Deux dessins d'après la publication de 1702. Publication posthume. La joie à gauche et la tristesse ou abattement de cœur au milieu. Ces deux têtes schématiques ressemblent au dessin à droite de Superville. La joie et l'abattement. Donc, aux lignes diagonales ascendantes expansives et descendantes ou convergentes. Cette ressemblance est un argument en faveur de l'universalité des signes de Superville. On pourrait dire, bien avant qu'on ait parlé de l'esthétique de la ligne, Charles Lebrun avait déjà fait cette différence. Il faut cependant aussi considérer les différences entre Lebrun et Superville. Chez Superville, les dessins de visage sont très abstraits. On doit voir que Superville est l'inventeur du smiley ou de l'émoticône, un mérite qui ne lui a pas encore été reconnu d'ailleurs. C'est cette abstraction de Superville qui intensifie et consolide la perception des qualités liées aux directions. D'une part, les qualités expressives des directions pourraient être universelles. Ont-elles des origines dans l'évolution de notre espèce ? C'est une question à laquelle je ne saurais pas donner de réponse. Mais vous vous souvenez peut-être de la comparaison des deux vierges de Feitstoss que j'avais faite dans le cours précédent, qui pourrait être vraiment quelque chose qui a été perçu à l'époque, mais qui n'est pas facile à prouver. De l'autre, les signes de Superville sont beaucoup plus délibérés et perçus de façon beaucoup plus explicite dans la culture visuelle contemporaine que chez Charles Lebrun, où ces deux têtes ne sont qu'une partie d'un grand nombre de têtes, et où, par exemple, dans l'abattement, la tristesse de cœur, les sourcils jouent, et même la direction des yeux joue un rôle qui va bien au-delà de ce qui est possible dans l'anatomie, mais dans la joie, nous n'avons pas un effet semblable. Alors, si je pense que nous voyons ce genre de qualité de façon beaucoup plus forte aujourd'hui qu'on ne le voyait à l'époque de Charles Lebrun, c'est évidemment quelque chose que je ne peux pas prouver, mais je voudrais en donner quelques exemples. Alors d'abord, la question, Churchill souriant avec le geste du V pour victory, victoire, pourquoi est-ce que ce geste est si convaincant aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que tout le monde aujourd'hui le comprend, le connaît évidemment, mais le comprend aussi ? Je pense qu'effectivement, le fait que ces deux doigts vont vers le haut, vous pouvez faire comme ça, est quelque chose que nous comprenons beaucoup plus facilement parce que nous sommes plus accoutumés à la possibilité d'avoir une expression de la part de la ligne qui, dans ce cas-là, évidemment, correspond aux diagonales ascendantes expansives de Superville. Et mon deuxième exemple de preuve vient de la publicité de montres. 99,5% des montres dans la publicité sont photographiées à la même heure du matin, 10h10. Ce n'est pas moi qui l'a constaté, c'est un collègue suisse, Christian Dölker, qui me l'a fait remarquer dans une conférence et qui proposait un franc suisse pour chaque exemple qu'on lui enverrait de publicité de montres où les montres auraient un horaire différent. Alors, évidemment, j'ai voulu gagner un peu de francs suisses et j'ai essayé de trouver des contre-exemples et j'admets de ne pas en avoir trouvé beaucoup. Alors, je vous montre un exemple. Le voilà. Donc ce n'est pas 10h10, mais c'est bien 13h25. Alors pourquoi est-ce que 13h25? Parce qu'évidemment, le photographe savait très bien que cette montre allait être reproduite en horizontale. Et donc vous avez de nouveau le même principe des verticales ascendantes de Superville. Voilà, avec ça, j'en viens à ma dernière diapo de la première partie du cours et j'en profite pour résumer. Ma thèse est qu'il y a bien eu des changements dans la perception des œuvres d'art, que ces changements ne sont pas de nature fondamentale, qu'on peut plutôt les qualifier de déplacements d'accent. Je n'ai donné deux exemples. D'une part, le gain d'importance du non fini, et d'autre part, l'intensification de la perception de la composition de l'œuvre, ainsi que de l'expression des lignes. Des changements qui concernent la perception esthétique, donc la perception d'œuvres d'art, y compris celle du passé, mais aussi la perception d'un magazine. Vous voyez des publicités de montres. Après tout, si vous vous intéressez pour une montre, c'est parce que vous la trouvez plus belle qu'une autre. Et à ce moment-là, des critères de ce genre jouent un rôle. Mais évidemment, s'il y a eu des changements dans la façon de percevoir esthétiquement les œuvres d'art et le monde qui nous entoure, il y a aussi eu des changements dans la création de tableaux et de sculptures. Et par exemple, je vous montre une comparaison assez normale et courante de deux célèbres tableaux qui sont d'une part très semblables. La toilette de Vénus de Velázquez et la grande odalisque d'Ingres. Deux femmes voluptueuses couchées sur un lit représentées de par leur dos. Les deux regardent coquettement le spectateur, chez Velázquez par l'intermission d'un miroir, alors que l'odalisque tourne sa tête. Il y a, bien que ces deux tableaux soient très semblables, une grande différence dans la façon de peindre le nu féminin, d'une part au niveau de la touche plus esquissée et pasteuse chez Velázquez, plus lisse chez Ingres. Mais il y a aussi, et c'est ça qui m'intéresse ici, une grande différence dans le rapport entre l'anatomie et la ligne dans ces deux tableaux. Chez Velázquez, chaque membre du corps est modelé avec des rondeurs. Vous avez une anatomie qui est plus véritable. Chez Ingres, l'ensemble du corps est sous-ordonné, subjugué à des lignes, un échafaudage, comme le disait Rodin. Alors regardez la façon dont cette très grande courbe va même du contour de la tête le long du dos. Regardez la façon dont les bras sont soumis à une courbe et où même il y a un certain rythme de la main, du pied et du deuxième pied qui ont des longueurs semblables pour donner cette impression d'un échafaudage, d'une composition abstraite. Ce sont des aspects qui ne jouent pas, ou du moins pas à ce point-là, un rôle dans la toile de Velázquez. Et je crois que ça dépend beaucoup de ce déplacement d'accent dans la façon de voir les œuvres du passé, de voir, quand on a un regard esthétique, ce qui nous entoure, et évidemment, pour les peintres, de peindre. Après ce constat d'un déplacement d'accent dans la perception de l'œuvre d'art, la tâche est de développer des méthodes pour étudier les dimensions, l'étendue et l'envergure de tels déplacements. C'est une tâche qui, à mon avis, est essentielle pour ne pas être soumis à accepter que l'artiste et ses contemporains ont vu l'œuvre de façon différente que nous, mais que nous ne savons pas comment ils l'ont vue. Et c'était pour moi le point de départ d'un projet de recherche qui dure depuis plusieurs années, qui était financé entre autres par le Centre national de la recherche allemande et que je conduis en coopération avec le psychologue Christoph Klein de l'Université du Pays de Galles à Bangor. Ce projet a deux volets qui correspondent à la deuxième et à la troisième partie de mon cours. Le premier volet est une recherche sur le rôle de l'œil dans la littérature artistique. Nous avons constitué une banque de textes dans laquelle j'ai été beaucoup aidé par deux étudiants, Oliver Kaas et Alexander Linke, une banque de textes avec environ 550 textes qui, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, dans ce qui est cet amas assez divers de la littérature sur l'art, parle de l'œil, parle du mouvement de l'œil d'une part et de l'histoire de l'œil de l'autre. Et je vais essayer dans le prochain cours de vous montrer de quelle façon ces deux concepts sont des concepts qui au premier abord sembleraient semblables mais qui sont très différents, et deux concepts qui ont une histoire qui en partie va jusqu'au VIe siècle, donc très ancienne, et qui est importante pour comprendre la façon dont la théorie de l'art, les artistes eux-mêmes, ont conçu l'œil au cours de l'histoire. Et le deuxième volet de cette recherche est un volet empirique où effectivement nous avons essayé de comprendre ce que fait l'œil du spectateur quand il regarde un tableau et que nous enregistrons ses mouvements. Voilà, alors là, j'espère que le sujet va vous intéresser et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.